comme à tous les mardis, c'est avec plaisir que je l'accueille. Martin Lalonde, gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Salut Martin.
Allô Rock.
Aujourd'hui, chronique pour les gens riches.
Pourquoi?
Mais le thème de ta chronique, c'est le décaissement.
Le décaissement.
Par définition, si tu décaisses, c'est parce que tu en as beaucoup en caisse.
Pas nécessairement beaucoup, mais non? Que t'en as.
Ouais, ben t'en as t'en pour décaisser.
C'est ça.
Tu décaisses pas une marge de crédit, hein?
Non. Donc, on a un peu d'épargne, effectivement. C'est le cas de le dire.
Alors, aujourd'hui, on va savoir comment gérer ça, le décaissement, parce qu'il y a des stratégies à utiliser pour minimiser l'impact fiscal, notamment.
C'est, puis j'irai encore plus loin, c'est la seule raison qu'il y a une stratégie de décaissement, c'est pour minimiser les impôts que les gens vont payer.
D'accord. Alors, je t'écoute assidûment.
Avec plaisir. Donc, première chose à savoir, c'est quoi les sources de revenus à la retraite qu'on peut avoir. Donc, dans la planification qu'on fait avec nos clients, quand ils arrivent près de la retraite, on leur explique c'est quoi les sources de revenus et comment ça va être quoi l'impact sur leur retraite. Donc, la première chose que les gens connaissent, c'est la rente de la RRQ. Donc, 65 ans, c'est l'âge normal de la prendre. Donc, si on la prend avant, elle est déduite de 0,6% par mois. Si on la prend après, elle
est moins.
Par mois. Et si on la prend plus tard que 65 ans, elle est majorée de 0,7% par mois. Donc, il faut le savoir dans notre planification. Même chose pour la rente de la sécurité de vieillesse, payable à tout le monde qui demeure depuis au moins 10 ans au Canada, majorée de 6% après 65 ans, qui peut aller jusqu'à 36% à 70 ans. Les autres sources, c'est les régimes de retraite des employeurs, que ce soit à prestations déterminées ou à cotisation déterminée. Et la dernière chose que les gens ont souvent, c'est le décaissement des REER, des CRI, des FER, des FRV et des comptes non enregistrés.
Tout à fait.
Donc.
Et puis, c'est ça. Puis, évidemment, tu pourras aussi avoir des placements autres.
Oui. Donc, autres qui seraient de l'immobilier et des choses comme ça.
Voilà. Alors, quand on a tout ça devant nous, il faut prendre une décision, à savoir, on décaisse quoi en premier.
Donc, on part avec la règle de base qui, comme n'importe quelle règle, on peut être appelé à la changer. La règle de base, c'est quoi? C'est qu'on sort en premier les placements non enregistrés, ce qu'on a au comptant. En deuxième lieu, on décaisse qu'est-ce qu'il y aurait dans une société de gestion ou dans une fiducie qui aurait été placée pour des raisons fiscales. Par la suite, on y va avec le CELI. On continue par les comptes de retraite immobilisés et on termine par le REER. Pourquoi? Donc, on garde qu'est-ce que est immobilisé, enregistré le plus longtemps possible, puisqu'on ne paie pas d'impôt sur les gains qu'on fait à l'intérieur de ces comptes-là.
Voilà. Ça serait pourtant la même chose avec le CELI.
Le CELI, l'avantage du CELI, c'est que quand on va arriver à l'âge... si on prend la stratégie qu'on calcule à 71 ans, qu'est-ce qui va aller dans le FRV, qu'est-ce qui va aller dans un FER. Donc, le CELI, on va le décaisser avant pour ne pas être obligé de le faire plus tard.
Pourtant, les gains sont à l'abri de l'impôt.
Ils sont à l'abri de l'impôt aussi. On peut aller à une nouvelle étape. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu dis là? C'est que nous, le CELI, chez Rivemont, on l'utilise aussi en cas de problème majeur, donc un toit ou les choses comme ça. Donc, c'est de l'argent qui peut être placé à l'abri de l'impôt et qui peut être utilisé à peu près n'importe quand. Donc, c'est vrai, en partie, qu'est-ce que tu dis, c'est qu'on pourrait garder une partie de notre CELI pour les encas, mais qui pourrait aussi continuer à grandir à l'abri de l'impôt.
Qu'est-ce que tu fais avec le fractionnement du revenu avec ta conjointe, ton conjoint?
Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'on en profite au maximum. Donc, c'est un peu difficile à expliquer en raison des règles qui s'appliquent à chaque personne.
Bien sûr.
Par contre, on peut y aller avec des règles générales. Qu'est-ce qui peut être fractionné? Donc, le paiement d'une rente prévue par un gérant de retraite, les revenus des FER, des FRV, la portion imposable d'une rente que vous avez achetée auprès d'une compagnie d'assurance. Par contre, les rentes de la RRQ ne sont pas fractionnables.
Ouais.
Et il y a jusqu'à 50% des revenus qui sont admissibles, donc on peut fractionner.
Bon. Évidemment, on ne rentrera pas dans les hypothèques inversées. On en a jasé. C'est une façon de sortir de l'argent à la retraite sans être obligé nécessairement de vendre le capital. Mais il y a des conséquences importantes par rapport à ça.
Mais il y a quand même deux stratégies que je veux te parler avec
toi.
La première stratégie, c'est quand on décide de prendre nos rentes, que ce soit principalement la Régie des rentes du Québec, mais ça peut être la sécurité de pension de vieillesse, quand on a des REER. Donc, il peut être avantageux pour un individu, quand il arrive à la retraite, de retirer ses REER afin de repousser ses paiements de RRQ jusqu'à 65 ans ou à 70 ans s'il y a assez de REER dans ses comptes. Pourquoi? Parce que s'il attend plus tard pour retirer ses REER, quand ses rentes arrivent, il les reçoit, donc il va être imposé beaucoup plus sur les REER. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, une stratégie qu'on met en place, c'est qu'on repousse les rentes et on retire les REER avant de le faire.
Pourtant, le gain qu'on peut faire sur nos REER pourrait être supérieur au rendement qu'on va recevoir sur la RRQ?
Oui. Donc, oui et non, puisque un à coût de 0,6 par mois, c'est quand même intéressant qu'on gagne de rendement okay. à tous les mois. Les deux autres points qui sont intéressants, c'est qu'il pourrait avoir un transfert du risque de longévité au gouvernement. Donc, ce qui est intéressant, et ça réduit le risque d'investissement.
D'un autre côté, en termes de planification successorale, ton RRQ, ça ne va pas dans ta succession. Tes REER, oui.
C'est quelque chose à discuter, mais ça peut être intéressant.
Alors,
qu'il faut
quelqu'un
calculer?
Qui est plus égoïste prend ses REER, quelqu'un qui veut passer à ses petits prend son régime de retraite.
Mais nous, on essaye vraiment de maximiser. C'est sûr que plus tard, il va y avoir des planifications au niveau successoral, mais c'est pas l'objectif présentement au niveau du décaissement la plupart du temps.
Mais tout ça, là, je t'écoute, là, tu sais.
Oui.
Compliqué, tu sais.
Oui.
C'est compliqué pour des experts. Imagine, c'est compliqué pour Joe Blow. Tu sais, je fais toujours le parallèle. C'est pas parce qu'on a de l'argent que ça veut dire que tu sais comment gérer ça. C'est pas parce que tu as des dents que tu sais comment l'arracher.
Absolument. Mais le service existe pour bien le faire et habituellement, ça vaut la peine au niveau des impôts.
Bon, tu m'as dit deux affaires. Tu m'as dit ça, c'est la première chose. Tu voulais me parler comme stratégie.
La deuxième chose, c'est quand on arrive près de la retraite et qu'on a des revenus qui sont non stables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on est contractuel, il y a un an qu'on fait des revenus, il y a de l'autre année qu'on ne fait pas de revenus. Une stratégie qu'on peut mettre en place, c'est le transfert du REER vers le CELI, du CELI vers le REER selon les années. Donc, les années où on a plusieurs revenus, on prend beaucoup de REER. L'année où on n'a pas de revenus, on retire ces REER-là, on les met dans le CELI pour minimiser les impôts à chaque année.
Très intéressant. Comme à l'habitude.
Comme à l'habitude.
Merci beaucoup, Martin.
Ça me fait plaisir.
Le golf te démange bientôt?
Ça commence bientôt.
Oui, hein?
Ah, oui, c'est
tu commences à swinguer un peu?
Oui.
Je parle du golf, là?
Oui, j'ai. Ben, en vacances de deux semaines.
Ah! Oh! C'est vrai, t'es allé dans l'Ouest. Oh, oui, ouais. Es-tu un amateur de golf sur les écrans, toi?
Aussi.
C'est vrai. Ça va dire, ton swing, tu le pratiques. Surtout si tu t'en vas pas jouer, si tu t'en vas pratiquer, là, avec toutes sortes de l'angle de ta balle, la rotation. C'est pas mal intéressant de voir comment t'es pas bon, tu sais.
Ouais,
je parle dans mon cas, moi. Excellent, merci, Martin.
Merci, Rick.
Martin Lalonde, il est gestionnaire de portefeuille chez Rivemont.